أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la taqwa. Le jeûne est prescrit pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous le saviez. Par la grâce d'Allah, le mois du Ramadan a débuté. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il s'agit d'un mois grandiose porteur de grandes bénédictions. Au cours de ce mois, Allah est des plus bienveillants à l'égard de ses serviteurs dans l'octroi de ses faveurs. Durant les jours ordinaires, Allah bénit ses serviteurs de manière qui dépasse leur entendement. Au cours de ce mois, il enchaîne Satan et il prend des dispositions spéciales pour nous extirper des griffes sataniques. Nous n'avons pas de mots pour exprimer un tel exemple. Quand nous avançons dans la direction d'Allah, les portes de ses faveurs s'ouvrent davantage à nous. Allah Ainsi, Allah a choisi ce mois pour nous accorder ses faveurs. Ce mois offre les moyens pour se débarrasser des paresses démontrées dans les actes d'adoration, les nawafil et la récitation, et les efforts pour comprendre le Saint-Coran, pour appliquer les commandements du Saint-Coran au cours des mois précédents. Ce mois nous offre également le milieu le plus propice pour les actes obligatoires et facultatifs. D'où l'importance d'en profiter pleinement. L'on organise des dars dans nos mosquées, ainsi que sur la MTA. Il faudra en profiter pleinement. Et il faudra chercher la proximité de Dieu. Ensuite, nous devons faire de l'impact de ce milieu une partie permanente de nos vies, afin d'être les récipiendaires permanents des faveurs et des bienfaits de Dieu. Allah déclare « Avancez vers moi en essayant de tirer le meilleur parti de ce milieu du mois du Ramadan. » Cette parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permet d'estimer le bonheur que ressent Dieu quand son serviteur tente de se rapprocher de lui. Le saint prophète Mohammed lui déclare que la joie que ressent une mère en retrouvant son enfant perdu est moindre que la joie qu'Allah ressent en retrouvant son serviteur perdu. C'est-à-dire que la joie d'Allah, le Tout-Puissant est sans limite, lorsque ceux qui ne remplissent pas comme il s'y est les droits d'Allah et d'autrui et qui sont négligents à cet égard commencent à s'acquitter de ses devoirs avec sincérité. Lorsqu'Allah, le Tout-Puissant, est satisfait de son serviteur, il le comble de bénédictions infinies. Ainsi, nous serons chanceux si nous profitons de l'environnement du Ramadan pour attirer les faveurs d'Allah, le Tout-Puissant. Dans ces versets que j'ai récités, Allah attire notre attention sur l'importance de suivre la voie de la taqwa et ses injonctions, et il mentionne certains commandements qui sont liés au jeûne. Nous sommes donc chanceux qu'Allah nous ait offert ce livre plein de sagesse à travers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous soyons de ceux qui obtiennent sa proximité et afin que nous soyons de ceux qui suivent les voies qui mènent à lui. Dans la toute première directive du tout premier verset, Allah nous enjoint de suivre la voie de la modestie, de l'humilité. Et il nous a inculqué l'humilité en disant que le jeûne qui vous est prescrit n'est pas exclusif à vous. Le jeûne n'est pas exclusif à vous. Le jeûne a aussi été prescrit à ceux qui vous ont devancé. Il se peut qu'il y ait une différence dans leur manière de jeûner, mais le jeûne était également prescrit pour eux, et le but était l'acquisition de la taqwa. Et c'est aussi le but du jeûne dans votre cas. C'est-à-dire que vous devez jeûner pour adopter la taqwa. Vous devez éviter les mauvaises actions et vous devez adopter les bonnes actions et vous devez vous protéger des péchés et des paroles déplacées, tout comme un guerrier se tient derrière son bouclier pour se protéger. Et en plaçant le bouclier devant lui, le guerrier ne se contente pas de se protéger, mais il attaque aussi l'ennemi. Ainsi donc, si vous allez marcher sur la voie de la taqwa, non seulement vous allez vous protéger, mais vous allez aussi lancer des attaques contre Satan, vous allez lancer des attaques contre ses pensées diaboliques en le frappant. Et c'est en marchant sur les voies de la taqwa que vous allez respecter les droits du jeûne. Sinon, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah n'a aucun intérêt à vous affamer. Le véritable objectif est de cultiver la taqwa, sinon le but du jeûne est perdu. De nos jours, beaucoup de musulmans ne connaissent même plus la sensation de la faim. Cela concerne en particulier ceux qui sont riches. Ils consomment des repas somptueux pour le souhour et de même pour l'iftar. Il y a des pauvres qui peinent à trouver de quoi manger pour le souhour et l'iftar. Mais même dans leur cas, s'ils s'en tiennent à boire de l'eau pour leur jeûne, cela sera accepté par Allah lorsqu'ils vont également chercher à marcher sur les voies de la taqwa. Même dans leur cas, leur jeûne sera agréé lorsqu'ils vont s'efforcer de perfectionner leurs actes d'adoration. De plus, il est recommandé aux riches de se renseigner spécialement sur les pauvres de leur région pendant le Ramadan. Il ne suffit pas de rassembler uniquement les riches pour se délecter des iftars, mais vous devez aussi organiser des iftars pour les pauvres. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas en faveur de ces grands iftars qui ressemblent à des festins. Maintenant, cela s'est transformé en exhibitionnisme et en innovation. Pendant le Ramadan, on doit porter une plus grande attention à la lecture du Saint-Coran, à l'écoute du Saint-Coran, à l'enseignement du Saint-Coran. On doit porter une plus grande attention à la mention de Dieu, à son souvenir. On doit porter une plus grande attention aux actes d'adoration. Mais dans la pratique, des personnes de diverses professions quittent leur travail pour se consacrer à manger lors des festins de l'iftar. Et ceux qui offrent ces invitations pour l'iftar ne se consacrent pas à la lecture du Saint-Coran et des hadiths. Ils ne se consacrent pas au souvenir d'Allah et à l'adoration. Ils tentent d'organiser de grands iftars pour mériter des éloges. Pour mériter les éloges d'avoir organisé un iftar somptueux. Pareilles pratiques ne sont pas le but du Ramadan. Pareilles pratiques éloignent de la taqwa. Ainsi donc, pour profiter du bouclier, il est également nécessaire d'utiliser ce bouclier correctement, sinon Satan attaquera à droite et à gauche, devant et derrière. Comment se protéger en pareil cas? Et ensuite, Satan peut infliger de graves blessures à l'homme. Nous devons respecter les exigences du jeûne au cours du Ramadan et nous devons tenter d'atteindre la taqwa qui est l'objectif véritable. Si l'on évite ce qui est licite pour l'amour d'Allah, nous mériterons certainement la miséricorde d'Allah. Et Allah enchaînera notre Satan. Et nous traverserons le vaste champ de bonnes actions sans entrave. La forteresse des actes d'adoration et le souvenir de Dieu nous protégeront des assauts et des attaques de Satan par la grâce d'Allah. On ne doit pas considérer Satan comme banal. Il a posé un grand défi en disant que la majorité des serviteurs d'Allah viendront à lui suite à sa séduction. Ainsi donc, nous devons relever ce défi de Satan pendant le Ramadan. Et nous devons aussi tenter de lutter contre Satan avec les armes des actes d'adoration et des commandements du Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam explique ainsi la réalité du jeûne. Il déclare « Nombre de personnes ignorent la réalité du jeûne. Personne n'est à même de décrire le pays qu'on n'a pas visité et le monde qu'on ignore. Le jeûne ne signifie pas uniquement s'affamer et s'assoiffer. Sa réalité et son impact peuvent être ressentis par l'expérience. Moins l'homme consommera, plus il pourra se purifier l'âme et son aptitude à voir des visions s'affinera davantage. Mais malheureusement, aujourd'hui, le jeûne est synonyme de festin. En tout cas, le Messie premier l'Islam déclare. Dieu désire, par le jeûne, diminuer un type de nourriture et en augmenter un autre. Celui qui jeûne doit comprendre que son objectif n'est pas de s'affamer et de s'assoiffer. Il doit s'engager dans le souvenir de Dieu afin qu'il puisse se tourner vers Dieu et afin qu'il puisse couper ses liens avec ce bas monde. Afin qu'il puisse se tourner vers Dieu et afin qu'il puisse couper ses relations avec ce bas monde. L'objectif du jeûne est qu'il doit abandonner un type de subsistance qui suffit à nourrir son corps charnel et acquérir un autre type de subsistance qui est source de confort et de satisfaction pour son âme. Et ceux qui jeûnent uniquement pour l'amour de Dieu et non pas par tradition doivent louer Dieu, ils doivent glorifier Dieu, et ils doivent proclamer son unicité afin d'acquérir ce deuxième type de nourriture. Ainsi, au cours du Ramadan, il est très important de combiner la lecture et la compréhension du Saint-Coran avec l'adoration et le souvenir d'Allah. Le cœur doit constamment louer Allah. Il faudra glorifier Dieu. Et il faudra réciter cette prière spécifique enseignée par le Messie premier l'Islam, prière qui est une invocation inspirée par Dieu, c'est-à-dire Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Il s'agit d'une prière très importante. Il est nécessaire de passer par l'intermédiaire du saint prophète Muhammad, peace soit lui, pour l'acceptation de ces prières. Ceci est un commandement d'Allah. De même, il faudra exprimer l'unicité d'Allah. Ceci est également très important. Ce sont des moyens favorisant le progrès dans le domaine de la taqwa. Et ce sont également des moyens importants pour l'acceptation des prières. Donc, nous devons nous concentrer dessus en particulier. Allah insiste abondamment dans le Saint-Coran sur la nécessité de suivre la voie de la taqwa. La taqwa est la condition pour acquérir toute vertu. D'où l'importance d'y consacrer une grande attention. Le Messie premier alayhi salam a également accordé une grande importance à cela en de nombreux endroits, voire dans presque chaque assemblée. D'ailleurs, il avait composé ce vers. La racine de toute vertu est la taqwa. Ensuite, Allah lui a révélé le prochain vers. Si cette racine perdure, tout perdure. Ainsi, c'est la taqwa qui plaît à Allah le Très-Haut. C'est la taqwa qui mène à tout acte méritoire. C'est la taqwa qui débarrasse des impuretés de ce bas monde. La taqwa est ce qui satisfait tous les besoins physiques et spirituels de l'homme. Donc l'acquisition de la taqwa doit être le premier devoir d'un croyant. Comme je l'ai dit, le Messie premier al-Islam a mentionné le concept de la taqwa sous différents angles en divers endroits. Je cite ici certaines de ses injonctions à ce propos. Le Messie premier al-Islam déclare: le noble Coran l'a mentionné dès le début, Hudal lil-Muttaqin, c'est-à-dire le Coran est un guide pour les Muttaqis. Donc la taqwa est l'élément essentiel pour comprendre le Coran et obtenir des directives appropriées. Ailleurs, le Coran a déclaré « La yamassuhu illa al-mutahharun ». Sauf les purifiés, personne ne pourra comprendre le Coran. Cette condition n'est pas nécessaire dans d'autres domaines. Il n'est pas nécessaire que l'apprenant soit muttaqi et pur dans les autres domaines tels que les mathématiques, la géométrie et d'autres sujets. Même un transgresseur et un pécheur peut apprendre ces sujets. En fait, de nos jours, ce sont ces personnes-là qui ont beaucoup progressé dans ce domaine. Le Messie premier d'Islam ajoute: « Mais la logique sèche et philosophique ne peut favoriser le progrès dans le domaine du savoir religieux. Elle ne peut pas révéler ses vérités et ses connaissances à celui possédant un cœur corrompu et dénué de taqwa. Il ment s'il prétend pouvoir énoncer des paroles de science religieuse et ses vérités. Jamais il ne saisira les vérités et les connaissances religieuses. Être muttaqi est une condition essentielle pour saisir les délices et les subtilités de la religion, comme c'est expliqué dans ce poème en langue persane. La mariée du Coran enlève son voile quand on se débarrasse le fort intérieur de tout vacarme. » Le Messie premier al-Islam déclare: sans atteindre cette étape et sans vider le fort intérieur, l'on ne pourra pas saisir ses connaissances. Cela signifie que la demeure du cœur doit être débarrassée des impuretés de ce bas monde. Si ce cœur n'est pas vide de ses impuretés, il n'y a aucun avantage. Le Messie premier al-Islam demande: qu'est-ce que ce vacarme? Qu'est-ce que ce tumulte? C'est l'immoralité et le vice. C'est l'amour de ce monde. Oui, c'est une affaire distincte que de dire quelque chose comme un voleur. C'est-à-dire que si un tel énonce des paroles vertueuses, ces paroles sont peut-être volées des autres. Ce ne sont pas les siennes. Mais celui qui parle par l'inspiration du Saint-Esprit parle uniquement grâce à la taqwa. Gardez bien à l'esprit que la taqwa est la clé de toutes les sciences religieuses. L'homme ne peut pas les saisir sans la taqwa, tout comme Allah le Très-Haut a déclaré « L'iflamim zalik al-kitabu la raiba fi hudal lil-muttaqin ». Ce livre guide ceux qui sont pieux, ceux qui sont muttaqi. Qui sont-ils? Alladhina yu'minuna bil-ghaib, ceux qui croient en l'invisible, c'est-à-dire ils ne voient pas Dieu, mais ils ont foi en Allah, c'est-à-dire qu'ils croient que Dieu existe, même s'ils n'ont pas fait l'expérience de la personne de Dieu. Ensuite, ils redressent leur salat, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas encore une joie et un plaisir complet dans leur salat. Redresser la salat signifie qu'ils ne ressentent pas encore une joie et un plaisir complet, mais ils prient dans l'insipidité, dans l'ennui et en proie au doute. et ils dépensent une partie de ce que nous leur avons offert. Et ils croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi. Le Messie premier al-Salam ajoute, ce sont là les premières étapes et les traits des muttaqis. Il s'agit là des premières étapes et des rangs initiaux et des qualités fondamentales d'un muttaqi. Il doit nourrir ses croyances. La foi en l'invisible et le maintien de la surah sont les premiers stades du croyant. Le Messie premier al-Islam ajoute, on soulève l'objection suivante. Étant donné qu'il croit en Dieu, qu'il prie, qu'il dépense la voix de Dieu, étant donné qu'il croit aussi au livre de Dieu, en quoi cette guidance est-elle nouvelle? Ils accomplissent d'ores et déjà ces actions, quels progrès supplémentaires pourront-ils accomplir? Il s'agirait là d'un acquis superflu, c'est-à-dire acquérir ce que l'on possède déjà. Le Messie premier al-Islam déclare, la réponse à cette question est que ces expressions et ces propos n'indiquent pas la perfection de la conduite et du savoir de l'homme. Certes, Allah enjoint ces actes d'adoration, mais ceci n'est pas la perfection. Ceci n'est pas l'objectif final. Croire en Allah, croire en l'invisible, accomplir la salat, se concentrer de nouveau. Lorsque la salat flanche, dépenser un temps soit peu dans la voie d'Allah sont les étapes initiales pour se tourner vers les bonnes œuvres. Si l'apogée de la guidance était de croire en l'invisible, de quoi la marifa, la gnose est-elle le nom? Si la guidance était simplement de croire en l'invisible, quel serait le sens de la marifa, comment reconnaître la personne de Dieu? Par conséquent, la personne qui construira sa vie sur la guidance du noble Coran atteindra les plus hauts niveaux de la marifa. Pour obtenir la connaissance de la personne de Dieu, il faudra suivre la direction du noble Coran, il faudra appliquer ses directives et c'est là que nous allons atteindre les hauts niveaux de la marifa. L'on sortira de l'étape de la connaissance de l'invisible vers l'état de vision, comme si on voyait Dieu lui-même en personne grâce à l'œil de la certitude. C'est par les actions que l'on atteindra le niveau de certitude. Donc, pour sortir de la foi en l'invisible, il est nécessaire de suivre les commandements du noble Coran. Les gens demandent pourquoi croire en l'invisible. Ces jours-ci, les jeunes en particulier, les enfants, demandent à foison pourquoi ceci, pourquoi cela. Pourquoi croire en ce dont nous n'avons aucune connaissance, demande-t-il. Allah déclare que croire en l'invisible est une forme initiale de la foi. Suivez les injonctions de ce livre qui a été offert. Après avoir acquis la foi, il est important d'appliquer ces principes. Ceci vous fera connaître Allah, l'exalter. Et c'est là que vous sortirez de l'invisible vers l'état de vision. Non seulement l'on sortira de l'invisible, l'on verra qui est Dieu. Ceci est aussi un principe mondain. Les scientifiques et les chercheurs débutent leurs expériences par une hypothèse. Leur recherche est basée sur une hypothèse. Ils ignorent si l'hypothèse se révélera vraie ou non. Un concept est construit autour de cette hypothèse et la recherche est entreprise sur cette base. Mais Allah affirme que vous devez vous fonder sur la foi dans l'invisible. Ensuite, vous devez agir selon les commandements du Saint-Coran. Vous devez travailler dur, vous devez réfléchir. Et ensuite, vous allez voir, ensuite, vous allez observer. Les scientifiques effectuent leurs recherches pour leur propre satisfaction. Et lorsqu'ils sont satisfaits, eh bien, ils informent les autres. Mais ici, le concept proposé et la recherche qui s'ensuit profitent à chaque être humain. Ceci est la beauté de l'islam. Ceci est la véritable réalité de la foi dans l'invisible. De même, il explique qu'on tente de redresser la swala à son étape initiale, comme l'énonce le noble Coran. Le mot qiyam signifie redresser. C'est comme si la swala est tombée, c'est-à-dire qu'on ne tire pas le délice et le plaisir nécessaire dans la swala. Au contraire, la swala est une litanie d'insipidité et de doute. La swala n'est guère attirante pour qu'on y accourt avec enthousiasme, comme quelqu'un qui, affamé et assoiffé, se précipite tout impatient pour manger et pour boire. Mais quand on trouve la guidance, cette situation ne demeure plus. On tire plaisir de sa swala. L'on va tirer plaisir de sa swala et la chaîne des doutes va se terminer pour laisser de la place à la sérénité et à la tranquillité. Le Messie promet l'Islam explique. L'on raconte qu'une personne avait perdu un objet. Il a dit « Attendez un peu, je m'en souviendrai au cours de la swala ». Pareil swala n'est pas celle des êtres parfaits, car c'est Satan qui leur suscite ses doutes. En somme, cette personne avait perdu un objet, il a déclaré « Eh bien, je ne me souviens pas vraiment où se trouve cet objet. Je vais accomplir la swala. Au cours de la swala, mes pensées iront dans tous les sens et finalement, peut-être que je me souviendrai où j'ai placé cet objet. » Pareil swala n'est pas celle des êtres parfaits, il s'agit des suggestions de Satan. Mais lorsqu'on atteint le degré de perfection, l'on va demeurer à tout instant dans l'état de prière. Cela signifie qu'on se souviendra constamment de la personne d'Allah, et même des négoces et des profits de milliers de roupies n'affecteront pas pareil swala. Tout en s'attelant aux affaires de ce monde, l'on nourrira en soi la crainte de Dieu et son souvenir persistera. Le Messie promet l'Islam ajoute, il en est de même des autres étapes. Elles ne seront guère de vaines paroles, mais des réalités tangibles. De l'étape de l'invisible, on atteindra celle de la certitude. Je ne présente pas ces niveaux uniquement pour le plaisir de vos oreilles. Je n'ai pas expliqué ces niveaux pour vous conter une histoire et pour que vous en tiriez un plaisir momentané. Non, il s'agit là d'un trésor. N'abandonnez pas ce trésor, extirpez ce trésor. Ce trésor gît dans vos propres maisons et vous pouvez trouver ce trésor avec un peu d'effort et de travail. Ainsi donc, aujourd'hui, il nous incombe de profiter de ce milieu du Ramadan en travaillant dur pour extraire ce trésor afin que nous puissions nous rapprocher de la personne d'Allah l'Exalté. Le Messie promet les salams explique « Sachez que vos prières ne seront pas exaucées tant que vous n'êtes pas muttaki. » Adoptez la taqwa. La taqwa comprend deux aspects. L'un concerne la connaissance et l'autre concerne l'action. L'aspect sur le savoir a été élaboré. Sans être muttaki, l'on ne va pas découvrir les sciences religieuses et les vérités de la gnose. En ce qui concerne l'action, la sola, le jeûne, ainsi que les autres actes d'adoration seront imparfaits tant qu'on n'est pas muttaki. Aussi, gardez à l'esprit qu'il existe deux types d'ordre de Dieu. Premièrement, ne lui associez quiconque, ni eu égard à sa personne, ni à l'égard de ses attributs, ni concernant ses actes d'adoration. Deuxièmement, ayez de la compassion pour les êtres humains. Respectez les droits d'Allah, respectez les droits d'autrui. Le Messie promet les salams explique. Allah déclare وَمَا يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quand on acquiert la taqwa, l'on acquiert les bénédictions de l'univers tout entier. Et si vous acquérez la taqwa, Allah vous fournira des provisions de là où vous ne l'attendez même pas. Le Messie premier des salams explique. Rappelez-vous, le muttaki n'a jamais besoin de personne. Voir, il se trouve à un tel niveau où Allah lui fournit avant même qu'il ne lui demande. Allah promet d'offrir au muttaki les provisions matérielles de ce monde. Le Messie promet l'Islam déclare « J'ai vu une fois Allah dans une vision, il avait placé sa main sur ma gorge en disant « Si tu m'appartiens, le monde entier t'appartiendra. Ceci est la formule qui a été testée par les prophètes, par les saints et par les pieux du passé. Éprouvez cette formule vous aussi. Le Messie premier salam déclare « Notre Jamaat doit avancer sur les voies de la taqwa et ne doit pas se réjouir de la destruction de nos ennemis. » Allah dit dans la Torah à propos des ennemis des enfants d'Israël. « J'ai détruit vos ennemis, vous les enfants d'Israël, car vos ennemis étaient méchants, non pas parce que vous les enfants d'Israël vous étiez vertueux. Vos ennemis n'ont pas été détruits en raison de votre taqwa, mais en raison de leur malveillance. » Faites donc des efforts pour être pieux. Le Messie promet l'islam déclare, j'ai composé un vers. La taqwa est la racine de toute piété, si cette racine est sauve, tout est sauf. Le Messie promet l'islam ajoute, la taqwa est un antidote. Une fois administré, il guérit de tout poison. Mais la taqwa doit être parfaite. Appliquer qu'une branche de taqwa est comme avoir faim pour ensuite consommer qu'un seul grain. En pareil cas, manger ou ne pas manger est la même chose. De même, on ne peut pas étancher sa soif par une seule goutte. Il en est de même de la taqwa. Agir sur une branche de la taqwa ne peut pas tout amener. La taqwa est celle qui est en accord à la déclaration divine. Inna Allah ma'al ladhina taqaw. Certes, Allah est avec les muttaqis. On jouit de la compagnie divine si l'on est muttaqis. En somme, Dieu manifeste sa grâce si l'on possède la taqwa véritable. C'est cette taqwa que l'on doit tenter d'acquérir. Le Messie premier l'Islam explique. C'est vrai que je me répète ici. Je répète cela en raison de l'insouciance qui demeure. D'une part, l'on écoute les sermons et les conseils, et un enthousiasme se développe dans le cœur pour acquérir la taqwa, mais l'insouciance survient de nouveau. C'est pourquoi notre communauté ne doit pas oublier Dieu en aucune circonstance. On doit toujours demander son aide. Sans lui, l'homme n'est rien. N'oubliez pas qu'il peut vous faire disparaître en un instant. Toutes sortes de malheurs et de calamités existent. Il n'y a pas de place pour être sans peur et intrépide. Même en ce monde, l'enfer peut exister et de grandes calamités peuvent survenir. Et ces jours-ci, on parle des bombes atomiques, il s'agit là d'un enfer. En sus de cela, les autres types de bombes sont aussi des boules de feu. Le Messie promet l'Islam déclare, n'oubliez pas que personne ne peut intervenir dans le malheur d'autrui et personne ne peut partager la compassion à l'égard d'autrui tant que Dieu lui-même n'intervient pas et ne supprime pas cette calamité de par sa grâce. C'est pourquoi tout le monde doit avoir une relation intime avec la personne de Dieu. On doit avoir une relation intime avec Dieu. Celui qui, tout effronté, commet les péchés, la débauche et la transgression, est dans un état des plus dangereux. Le châtiment de Dieu est imminent pour lui, le châtiment de Dieu est à sa poursuite. Si vous souhaitez constamment la miséricorde d'Allah, adoptez la taqwa et abandonnez tout ce qui met Dieu en colère. Il faudra vivre dans la crainte divine. Ceci est un point des plus importants. Le Messie promet l'Islam déclare, « Tant que l'on ne vit pas dans la crainte de Dieu, l'on ne peut acquérir la taqwa véritable. » Tentez de devenir muttaqi, dit le Messie promet l'Islam. Quand ceux qui n'adoptent pas la taqwa commencent à être détruits, les muttaqis, quant à eux, sont sauvés. En ces instants, c'est leur désobéissance qui détruit les premiers, et c'est la taqwa qui sauve les muttaqis. Personne n'aura le salut en usant de ses ruses, de ses méfaits et de ses trahisons. Aucun être humain ne peut protéger sa propre vie, sa richesse, sa descendance, ni réussir dans quelque domaine sans la grâce de Dieu. Il est impératif d'avoir une relation intime avec la personne de Dieu. Cette relation intime est établie grâce aux actes d'adoration, grâce au souvenir d'Allah, grâce à l'obéissance au commandement d'Allah. Le Messie premier l'Islam ajoute, il faut absolument maintenir cette relation intime avec Allah et protéger cette relation. C'est-à-dire, cette relation doit être permanente. L'homme sage est celui qui protège cette relation. Stupide est celui qui ne protège pas cette relation. Celui qui se vante de sa ruse est condamné. il ne réussira jamais. Observez la terre, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Ce vaste monde a-t-il pu être créé par une autre main que celle cachée de Dieu? Absolument pas. Rappelez-vous que celui qui craint en temps de paix est sauvé en temps de peur. Et il n'y a rien d'extraordinaire à ce que quelqu'un montre de la peur en temps de peur. Même les mécréants, les polythéistes et les athées ont peur en ces moments-là. C'est en pareil moment que Pharaon avait dit la peur au ventre. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis de ceux qui se soumettent à lui. Le Messie promet l'Islam ajoute, le seul avantage qu'il a reçu, c'est que Dieu le Tout-Puissant a déclaré qu'il va protéger son corps, mais pas sa vie. En fin de compte, Dieu a placé son corps sur un côté. Il était un homme de petite taille. Ainsi, lorsque l'on s'enfonce dans le péché et la désobéissance, on se retrouve dans une situation où l'on ne peut pas rester en arrière un seul instant, ni devancer ce moment un seul instant, comme l'énonce le verset « La yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester en arrière un seul instant, ni devancer cet instant. Par conséquent, lorsque la mort survient, elle ne peut être ni avancée ni retardée. L'on doit s'efforcer de nourrir au préalable un lien avec Allah. Par conséquent, chanceux seront ceux des nôtres qui tirent réellement profit de ce mois du Ramadan afin d'augmenter leur niveau de taqwa et afin d'élever ce niveau de taqwa au niveau qu'Allah souhaite à notre égard. Ensuite, le verset suivant concerne le jeûne où Allah a énoncé certains commandements fondamentaux. Il précise que même si Allah a fixé un nombre de jours pour le jeûne, il a instauré une facilité pour ses serviteurs. Ainsi, ceux qui sont malades ou ceux qui sont en voyage ne doivent pas se surcharger inutilement, mais ils peuvent rattraper les jours de jeûne manqués après leur guérison et à la fin de leur voyage. Ainsi, il faut respecter cette injonction prescrite. Et il ne faut pas non plus s'imposer de fardeaux inutiles. Allah a pris en compte les facteurs tels que la santé et des circonstances exceptionnelles qui peuvent survenir. Allah prend en considération la taqwa d'une personne qui s'abstient de ce qui est licite par amour pour Dieu l'exalté, et il lui accorde ainsi une facilité lorsqu'il se trouve dans une période de difficulté. Ainsi, ceux qui prétendent que Dieu le Tout-Puissant a imposé un lourd fardeau en raison de ses commandements difficiles à suivre doivent comprendre qu'en réalité, aucun commandement d'Allah le Tout-Puissant n'est trop difficile à respecter. En effet, il y a toujours des facilités qui sont accordées. Les athées et les opposants à la religion cherchent à semer le trouble parmi les croyants en prétendant que les croyants se sont enchaînés par des restrictions et que ces restrictions violent leurs droits humains. Ce verset contient également une réponse à ces personnes qui critiquent la religion. Bien que le jeûne est obligatoire, et que le jeûne permette d'atteindre l'agrément d'Allah, Allah le Tout-Puissant a pris en compte les besoins naturels de l'homme et lui accorde des facilités. Ainsi, on peut remplacer ces jeûnes tout au long de l'année, et ceux qui ont les moyens doivent également payer la fidya, en sus de l'accomplissement du nombre fixe de jeûnes qu'ils ont ratés. Ils peuvent offrir cela en guise d'expiation pour les jeûnes qu'ils n'ont pas pu respecter. Cette fidya n'incombe pas à tout le monde, mais seulement à ceux qui en ont les moyens, et cela leur vaudra double récompense et ce sera considéré comme une bonne action supplémentaire. C'est ainsi qu'Allah accorde ses faveurs. De plus, les mères qui allaitent ou ceux qui souffrent d'une maladie de longue durée ont reçu l'instruction de payer la fidya en fonction de leurs moyens. Allah connaît l'invisible et il est conscient des intentions des gens, c'est pourquoi il a déclaré que leur fidya est une expiation pour le jeûne à condition qu'il paye la fidya avec de bonnes intentions. Ainsi, la fidya est un moyen d'aider les pauvres et une fois de plus, la récompense pour le respect des droits de la création de Dieu a été déclarée comme étant la même que l'acte d'adoration lui-même. Les pauvres sont ceux qui bénéficient de la fidya, mais sa récompense est égale à celle de l'adoration. Tel est le Dieu de l'islam. Il est tout miséricordieux. Si quelqu'un ne parvient pas, même en ce cas, à obtenir sa miséricorde, eh bien, ô combien malheureux est son cas. Le Messie promet l'islam déclare, « Un jour, j'ai réfléchi sur le but de la fidya et j'ai compris que c'était pour obtenir la capacité de jeûner. C'est Dieu qui rend les choses possibles et il faut demander toute capacité auprès de Dieu. Dieu a le pouvoir sur toute chose. S'il le désire, il peut même rendre apte à jeûner une personne souffrant de la tuberculose. De ce fait, le but de la fidya est d'obtenir cette force qui n'est tributaire que de la grâce de Dieu. Donc, selon moi, il est très important de prier. Ô mon Seigneur, c'est un mois très sacré, j'en suis privé. J'ignore si je serai encore en vie l'année prochaine ou si je pourrai rattraper mes jours de jeûne. Demandez-lui de vous accorder la capacité de jeûner, car je suis sûr qu'il le fera. Ainsi, l'on devra faire de son mieux pour jeûner et l'on doit payer la fidya avec l'intention qu'Allah l'accepte et qu'Allah nous accorde également la capacité de pouvoir jeûner. Néanmoins, lorsqu'Allah a prévu des exemptions, il est essentiel d'agir en conséquence. Il s'agit là de la véritable taqwa, la vraie taqwa est celle qui consiste à obéir aux ordres d'Allah. En développant ce point davantage, le Messie promet les salams déclare « En réalité, appliquez les exemptions que Dieu a stipulées dans le Saint-Coran et la taqwa. Allah a exempté les voyageurs et les malades afin qu'ils puissent jeûner ultérieurement. Par conséquent, il faut agir conformément à cette injonction. J'ai lu que de nombreux nobles saints du passé sont allés jusqu'à dire que c'est un péché de jeûner pendant un voyage ou lorsqu'on est malade. Car le véritable objectif est le plaisir d'Allah et non pas son bon vouloir. C'est par l'obéissance que l'on peut atteindre l'agrément d'Allah, c'est-à-dire en obéissant à un ordre donné par lui, au lieu de faire ses propres interprétations. Il ne faut pas faire ses propres déductions, comme le font les ulémas d'aujourd'hui, qui le font par arrogance de leur savoir. Et maintenant, grâce aux plateformes que leur offrent les réseaux sociaux, ils émettent des décrets jurisprudentiels qui sont complètement absurdes. Le Messie premier des salams déclare « Allah le Tout-Puissant a ordonné « Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra » Celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage doit jeûner le même nombre d'autres jours. Le type de voyage ou l'ampleur de la maladie n'ont pas été précisés ici. Il ajoute qu'une personne qui jeûne pendant le mois de Ramadan, alors qu'elle est malade ou en voyage, désobéit à un commandement clair de Dieu. Ainsi donc, Dieu a clairement indiqué que le malade ou le voyageur ne doit pas jeûner. Le malade ou le voyageur doivent rattraper leur jeûne manqué une fois qu'ils se sont rétablis ou qu'ils sont retournés du voyage. Il faut respecter ce commandement divin car le véritable salut réside dans l'obéissance à la volonté divine et non pas dans l'action forcée qui découle de sa propre volonté. Si un voyageur ou un malade choisit malgré tout de jeûner, il tombe dans la catégorie de la désobéissance. Une fois, une personne a interrogé le saint prophète Mohammed Bézos à lui sur le jeûne et les prières obligatoires en voyage. Le saint prophète Mohammed Bézos à lui a répondu « Si vous voyagez pendant le mois de Ramadan, ne jeûnez pas ces jours-là. » L'homme a répondu « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai la force de jeûner même durant le voyage. » Le saint prophète Mohammed Bézos à lui a répondu « Es-tu plus fort ou Allah l'est-il ? En vérité, Allah a accordé aux membres de ma Umma qui voyagent ou qui sont malades au cours de ce mois une permission de jeûner à titre d'exemption ultérieurement. L'un d'entre vous aimerait-il qu'il offre un cadeau à quelqu'un et que ce dernier le lui retourne ? Ainsi, la taqwa réside dans le fait que nous devons agir selon les commandements de Dieu. Il s'agit d'accomplir une bonne œuvre au moment où elle est prescrite et de s'abstenir de ce que Dieu a interdit. Qu'Allah le Tout-Puissant nous permette de traverser le Ramadan en méritant son plaisir et en marchant sur les voies de la taqwa et qu'Allah nous permette d'élever nos normes de taqwa. Il ne faut pas chercher des excuses pour ne pas jeûner et nous ne devons pas non plus nous imposer des difficultés excessives. Que nous puissions toujours agir en conformité aux magnifiques enseignements de l'islam. En ce Ramadan, que nous puissions profiter d'innombrables bénédictions d'Allah et que chaque jour soit plein de bénédictions et de miséricorde. Que nous puissions vraiment tirer profit du Ramadan et que ce Ramadan soit pour nous un moyen de nous rapprocher de Dieu. Que nous puissions avoir la possibilité d'accomplir des prières qui seront acceptées. Les Ahmadis du monde entier doivent également prier pour le succès de la Jamaat et pour que toutes nos difficultés disparaissent. Qu'Allah nous protège de tous les gouvernements, les États injustes et la méchanceté de toute personne. Prions aussi pour la libération de ceux qui ont été emprisonnés pour la cause de l'Ahmadiyya. Certains d'entre eux sont confrontés à de grandes difficultés. Prions également que nous nous accrochions à Allah et qu'aucune erreur de notre part ne rompe notre lien avec Allah et que la pluie de ses bénédictions ne cesse de pleuvoir sur nous. Prions également pour le monde musulman, qu'Allah leur accorde la sagesse et la compréhension et qu'il accepte le Messie promis et le Mahdi promis. Prions également pour être protégés des effets néfastes de la guerre. Prions pour ces nations musulmanes où des personnes innocentes sont tourmentées par les injustices causées par les guerres menées pour le pouvoir. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les libère de ses oppresseurs. Priez également pour le monde en général. Qu'Allah nous préserve de la guerre et de ses effets dangereux. En cas d'une guerre, les Ahmadis seraient également touchés. Qu'Allah les protège. Chaque Ahmadi doit élever le niveau de sa taqwa pour se protéger des effets de la guerre. Voilà ce que nous a enseigné le Messie premier d'Islam. Qu'Allah nous permette à tous d'agir en ce sens. Au Royaume-Uni, il semble que l'on tente de créer des difficultés pour les musulmans. De nouvelles mesures sont prises pour lutter contre l'extrémisme, mais les commentateurs pensent que cette modification de la loi vise les musulmans. Allah connaît mieux que quiconque les intentions qui cachent derrière cette mesure. Mais nous devons prier pour qu'Allah nous protège, qu'Allah nous protège nous et les autres musulmans qui vivent ici, qu'Allah nous protège des effets néfastes de cette mesure.
Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر